cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 17 mars 1987.
chez les modernes, chez les contemporains. La personne implique une intériorisation, une immanence de plus en plus profonde, dans une autonomie qui se veut totale. La nature, au contraire, la foussisse, est déterminée. Elle nous lie au monde animal. Progressivement, il se produit une sorte de rivalité dialectique entre les deux, à tel point qu'on pourra parler d'une morale de la personne et d'une morale de la nature. C'est dans ce climat qu'il faut essayer de comprendre la position de Jacques Maritain, qui veut reprendre la doctrine thomiste de la personne, assumant la nature, tout en tenant compte des revendications modernes par rapport au problème de la personne. Alors, je vous lis ce texte de Maritain dans De Bergson à Thomas d'Aquin, page 190. Maritain dit ceci. On peut dire qu'il y a comme une sorte de conflit chez nous entre personne et nature. J'entends entre la ligne métaphysique de la personne et la ligne métaphysique de la nature. En réalité, on ne devrait pas dire la ligne métaphysique, mais la nature implique des structures constitutives, reçues et déterminées à tout nous. Ces structures sont reçues. Elles ne viennent pas de la personne comme sujet premier d'opération indépendante. Notre intelligence a une nature supraphysique. Physique, c'est nature. Phusis, hein. Faut pas l'oublier, c'est le même mot. Hein. Donc notre intelligence a une nature supranature. Notre volonté aussi. Elles sont ainsi, en tant que puissance ou faculté, distincte de cette actuation immatérielle de surabondance, de ce jeu actuel qui est leur opération et qui, comme tel, émane de la personne et marque l'épanouissement de sa spontanéité. La nature de mon intelligence et celle de ma volonté sont reçues. Elles ne viennent pas de la personne. Pas très commode à comprendre. Mais on voit, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. C'est le vieux problème qu'Aristote posait déjà dans le De Anima entre la phusis et le nous. Vous savez, il y a quelques problèmes qui reviennent tout le temps. Les traite diversement, mais c'est des problèmes qui reviennent tout le temps. C'est le problème de la phusis et du nous, deux problèmes différents. Le nous, d'une certaine manière, n'est pas déterminé de nous, tandis que la phusis est déterminée de nous. Pour Aristote, ça prend une très grande force, parce que la philosophie de la nature, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'homme vivant fait partie de la philosophie de la nature, fait partie de notre univers. Et par le nous, il n'est plus notre univers. Et c'est là le nœud du problème de la personne. Alors, je vous cite encore cet autre passage. Il y a en nous, animaux raisonnables, un désir naturel qui n'est pas précisément de nous, mais d'un élément transcendantal en nous, à dépasser la condition humaine. Ce qui ne va pas du reste sans quelques accidents et nous fait trop souvent désirer d'être des animaux déraisonnables. Mais précisément parce que ses aspirations à dépasser la condition humaine ne sont pas des aspirations de notre nature spécifique, mais seulement d'un élément transcendantal en nous. Elle reste inefficace et conditionnelle. Elles n'ont aucun droit à être exaucées. Si elles sont exaucées en quelque mesure, ce sera par grâce. Oui, la puissance obédientielle du théologien que Marie t'a introduit ici pour essayer de comprendre ce dépassement. Le Saint-Père, constamment, on dit l'homme, ne peut que se définir en se dépassant. C'est toujours la même idée, c'est ça qu'il faut saisir. C'est qu'il y a dans l'homme des déterminations très nettes. On est conditionné. Et ce conditionnement nous permet de vivre en communauté. Et puis, il y a en nous quelque chose de transcendant qui est capable de juger la communauté. C'est ça pour Maritain, vous voyez. C'est comme ça qu'il arrivera à préciser qu'est-ce qui, en nous, est dans la communauté. Qu'est-ce qui, en nous, est au-delà de la communauté. Petit examen de conscience philosophique. Et c'est vrai, c'est très vrai qu'il y a en nous toute une partie de nous qui dépend de la communauté. Les repas communautaires. C'est partie de la prière liturgique communautaire. Des cours communautaires. On est un animal politique. Et puis, il y a en nous quelque chose qui transcende ça, qui même résiste à ça, qui n'aime pas cela. Un élément transcendantal, comme dit Maritain. Vous voyez, cet élément transcendantal, c'est le transcendantal de Kant. C'est pas le transcendantal de saint homme, c'est le transcendantal de Kant. Il y a une mixture, comme ça. Dans Maritain, de temps en temps, il y a des expressions kantiennes qui sont baptisées thomistes. Maritain ne fait que reconnaître la distinction de la nature et de la personne. Il insiste sur leur aspiration différente, voire opposée, pour mieux mettre en lumière les aspirations propres de la personne. Aspirations qui ne peuvent s'expliquer que par un élément transcendantal en l'homme. Les conditions de la nature humaine sont alors dépassées. Mais souligne Maritain, nos aspirations personnelles demeurent inefficaces. Il faut la grâce. C'est dit ça. Très curieux. Vous reconnaissez, hein, Maritain a joué un certain rôle. Et il faut essayer de comprendre comment il situe un peu ce problème. D'autre part, pour montrer l'autonomie de la personne à l'égard de la communauté. Ça, je crois que c'est l'influence avec Mounier, ça. En face des dictatures, il ne faut pas l'oublier, Hitler, Mussolini, hein. C'est tout un contexte qu'il faut bien comprendre, tout cet aspect des dictatures. Remarquez qu'il a écrit ces choses-là avant, mais c'était quand même toujours un peu devant ces perspectives-là. Jacques Maritain reprend la fameuse distinction de l'individu et de la personne. Je crois que c'est au cœur de sa réflexion métaphysique sur la personne. L'homme, comme individu, est partie de la communauté. Comme personne, il est au-delà. Il la transcende. Car il est individu par son corps et personne par son esprit. Cette distinction entre individualité et personnalité, qui affirme Maritain, est fondamental dans la doctrine de saint Thomas. C'est lui qui dit ça. Il dit ça dans la personne et le bien commun. Il tient aux racines même de la métaphysique thomiste. Peut se résumer ainsi. Je vous cite. Il n'y a beaucoup à dire là-dessus. C'est intéressant, mais c'est une distinction particulière. Il faudrait regarder également la distinction de individu et personne dans Garrigou-Lagrange. Le sens du mystère, le clair-obscur intellectuel. Parce que c'est des distinctions que Maritain a pris au père Garrigou-Lagrange. C'est des distinctions. Une fois de plus, je crois qu'on retrouve là la maladie fondamentale de beaucoup de thomistes. C'est qu'ils puisent dans la somme théologique de saint Thomas des distinctions qui sont très justes au niveau du théologien et qui devraient être repensées totalement au niveau philosophique. C'est très vrai que saint Thomas, dans son traité sur le Christ, distingue et sépare. C'est pas une simple distinction d'intelligence, mais sépare, montre bien la séparation qui existe entre individu et personne. Jésus est le Verbe devenu chair. Sa personne, c'est le Verbe de Dieu. Et il est un individu parfait par son corps, formé par l'Esprit Saint en Marie. Donc vous avez dans le mystère de Jésus une individualité parfaite, distincte de sa personne. Alors, vous voyez, là vous êtes dans le mystère même de l'incarnation. Et le mystère de l'incarnation a obligé le théologien de préciser avec beaucoup de force qu'est-ce que c'est que l'individualité, qu'est-ce que c'est que la personne. Mais c'est un mystère qui oblige le théologien de faire cela. De même, dans la très sainte Trinité, saint Thomas a été obligé, nous l'avons vu, de préciser non plus si individu et personne, mais de bien préciser la différence entre l'unité de Dieu et la distinction des personnes. Mais on est en théologie. Alors ne prenons pas les conclusions du théologien comme des données philosophiques. La scolastique décadente constamment fait cela. Et on enlève, on met entre parenthèses, je vous l'ai déjà dit, le jugement d'existence du croyant. Et on se sert des distinctions du théologien comme si c'était des distinctions philosophiques dont je pouvais me servir directement. Et si c'est très typique. Alors je cite ce passage de Maritain, c'est toujours la personne et le bien commun, page 36. Il n'y a pas en moi une réalité qui s'appelle mon individu et une autre réalité qui s'appelle ma personne. C'est le même être tout entier qui, en un sens, est individu et en l'autre, un autre sens, est personne. Je suis tout entier individu en raison de ce qui me vient de la matière et tout entier personne en raison de ce qui me vient de l'esprit. Comme un tableau tout entier est un complexe physico-chimique en raison des matières colorantes dont il est fait, et tout entier une œuvre de beauté en raison de l'art du peintre. Donc, les compositions physico-chimiques, c'est l'individu. Et l'expression de beauté, c'est la personne. Vous voyez l'analogie, hein? Ce sont des distinctions. C'est très juste. C'est très vrai que je suis à la fois une personne et un individu. Et ce qui me semble gênant, c'est l'utilisation qu'on en fait. En disant, l'individu est une partie de la communauté. Mais si l'individu et la personne sont la même chose, c'est donc la personne qui est une partie de la communauté. Alors comme Arétin dit, l'individu est une partie de la communauté, mais en tant que personne, il transcende la communauté. Ça va plus très bien. La communauté est la personne, la réalité de la personne. C'est évident que c'est deux réalités différentes. Et vous résolvez le problème en faisant des pas à partir d'une distinction de signification, c'est ce qu'il dit ici, de la personne et de l'individu. Alors, c'est intéressant, il faut essayer de comprendre un peu, mais il faut faire un petit peu attention. On voit bien l'intérêt de ces interprétations, mais il faut se demander si elles ne cherchent pas à faire coïncider la pensée de saint Thomas avec une vision différente de la sienne. La distinction réelle que Maritain reconnaît entre nature et personne n'implique pas nécessairement le conflit dont il parle. Si je suis totalement individu et en même temps personne, je ne vois pas où réside le conflit. Peut-on vraiment parler d'un conflit entre personne et nature? Entre personne et individu? Saint Thomas voit entre l'esprit et la matière une connexion mirabilis. Donc une connexion admirable. On peut donc dire qu'il y a pour lui un ordre admirable entre personne et nature. Le conflit que nous pouvons constater au niveau du développement de notre vie humaine ne se situe pas au même niveau. Il se situe au niveau des désirs psychologiques. Et je crois que c'est là la confusion. Nature, personne. C'est, je crois, la distinction entre eux. Ce qui spécifie ma nature et la personne, ma manière d'exister. Donc je suis au niveau d'une analyse. Les conflits proviennent d'un point de vue psychologique. Les motivations, quand je suis dans une communauté, s'impose à moi, quelquefois en opposition de mon individualité, aussi bien que ma personne. Et même, je dirais, plus de mon individualité que ma personne. Mon originalité, mes petites originalités, est-ce que ça provient de mon individualité ou de ma personne? Je voudrais bien le savoir. Et dans la vie commune, c'est constamment ces choses-là qui font des difficultés. C'est mon originalité. Dès que je réfléchis 3 minutes, je dis, oh, ça n'a pas d'importance. Vous savez, c'est la question de savoir si on est grand ou petit. On marche plus ou moins vite. Et ce que je vous avais dit à propos de la vie commune, dans la vie religieuse, ça illustre très bien ce que c'est que la vie commune. Alors, couper les pieds, est-ce que c'est l'individu ou la personne? Je crois que c'est les pieds de l'individu et de la personne. Vos pieds, est-ce que c'est vous, c'est vous comme individu? Ou c'est votre personne aussi? Donc, cette distinction que fait Maritain entre individu et personne par rapport à la communauté, ça ne colle pas. À première vue, ça semble intéressant. Ça ne colle pas. Parce qu'on n'est pas du tout au même niveau. Distinction individu et personne, c'est une distinction dans l'ordre métaphysique. La distinction communauté et la personne qui transcende la communauté, c'est la distinction au niveau de éthique personnelle et éthique communautaire. On est donc au niveau des opérations et de la fin. Ça, il faut bien comprendre ça. Parce que les choses de Maritain, on les ressort de temps en temps. Comme Maritain fait autorité, on dit voilà les distinctions thomistes. C'est pas ça du tout. Alors je crois qu'une fois qu'on a compris la distinction des niveaux, on ne peut plus faire ces confusions. La distinction individu et personne prise à saint Thomas vient de son traité sur le mystère du Christ. C'est vrai qu'au plan métaphysique, la personne relève de l'esprit et l'individu relève de l'individuation et donc de la quantité, comme dirait saint Thomas. Je suis individué par mon corps et par mon âme aussi. C'est bien évident, je ne peux pas les séparer. Mais d'une façon tangible, c'est par mon corps. C'est pas premièrement mon esprit. Et d'autre part, tout ce que je suis comme personne, je le suis comme individu. Et le Maritain a parfaitement raison quand il dit: il y a en moi une réalité qui s'appelle mon individu. Donc, je veux dire, il n'y a pas en moi une réalité qui s'appelle mon individu et une autre réalité qui s'appelle ma personne. C'est le même être tout entier qui, en un sens, est individu, en un autre sens, personne. Ça, c'est juste. C'est au niveau des significations. La signification, c'est une analyse philosophique. Ce n'est pas la réalité existante. Or, la communauté est la finalité propre de la personne. Je suis au contraire là, dans l'ordre existentiel, dans l'ordre éthique. Et je crois que toute la confusion de Maritain provient de là. C'est que Maritain fait cette confusion entre une analyse métaphysique qu'il transpose dans le domaine éthique et politique. Je ne peux pas transposer une distinction métaphysique transcendantal chez saint Thomas. N'est-il pas employé ici en un sens métaphysique et non critique pour exprimer ce qui est au-delà de la nature spécifique, l'esprit? L'esprit est considéré comme en opposition à l'égard de la nature, dans une sorte de vision dialectique, je dirais kantienne, et non pas comme un degré supérieur du vivant, ou comme une modalité particulière de la substance. Il est évident que la personne signifie quelque chose que ne signifie pas la nature ou l'individu. Elle signifie une dignité dans l'ordre de l'être, alors que la nature signifie une détermination dans l'opération vitale ordonnée à une fin. Cependant, la nature ne dit pas premièrement limite, mais au contraire, capacité d'opération orientée vers une fin, donc capacité de dépassement. Il n'y a pas d'opposition immédiate entre personne et nature. Il s'agit simplement d'aspects différents au moyen desquels nous exprimons la richesse de l'homme qui, en tant que personne, possède une autonomie et un dominium sur ses activités, et en tant que nature implique un ordre vers une fin. C'est tout simplement la distinction que Marita ne saisit pas ici avec suffisamment de netteté. La nature, c'est un principe immanent d'opération. La personne, c'est un tout. C'est une manière d'exister. Alors, ne confondons pas les deux et n'opposons pas les deux. Ça, c'est d'autant plus intéressant, je vous dis, que nous sommes dans un climat aujourd'hui d'opposition entre la morale de la nature et la morale de la personne. Je crois qu'il faut refuser catégoriquement cette opposition. Nous essaierons de le comprendre progressivement. D'autre part, n'oublions pas qu'entre nature et personne, il y a un ordre réciproque à des niveaux différents. Au niveau spirituel, la nature est pour la personne. Au niveau biologique, où la personne se ramène à l'individu, celui-ci est pour la nature. Ça, c'est au sens très intéressant aussi à essayer de bien comprendre. L'individu homme est le seul vivant parmi les autres vivants qui n'est pas finalisé par son espèce, tandis que tous les autres individus des espèces animales sont finalisés par leur espèce. Et c'est cela, je crois, qu'on doit bien saisir. L'individu homme vivant est une personne qui implique l'esprit. Et par l'esprit, il a une finalité individuelle et personnelle qui dépasse celle de l'espèce. L'homme peut être un contemplatif. Et en étant un contemplatif, il dépasse la finalité de l'espèce. L'homme est capable cours de sa vie biologique et dépendant de sa nature. Mais comprenons bien que ces distinctions que nous faisons montrent les rapports réciproques de nature et personne. Donc, je crois qu'il faut bien saisir qu'il ne faut pas mettre d'opposition, de rivalité entre nature et personne. Ça me semble une erreur. Mais il serait plus exact de dire, pour sauvegarder l'unité d'être de l'homme, la matière qui est en moi fonde mon individualité. Et mon âme spirituelle me permet de découvrir la finalité de ma personne. L'être de ma personne et de mon individu est le même. Existences. Du reste, Marita le reconnaît tout à fait, ça. Je n'ai pas deux réalités en moi. Je n'ai pas deux existés en moi. Il n'y a qu'un seul existé. L'existé de ma personne. L'existé de mon individu. Toutes mes activités personnelles sont individualisées. Je ne peux pas couper les deux et séparer. Cet élément transcendantal est parfaitement individualisé. Mon élément transcendantal, c'est ma connaissance. Et bien, ma connaissance est ma connaissance. Elle est entièrement individualisée dans son exercice. Ma connaissance n'est pas votre connaissance. Donc, c'est parfaitement individualisé. Je suis individualisé jusque dans mon esprit. Précisons, jusque dans l'exercice de ma vie spirituelle. Et si j'allais plus loin, je dirais un mystique est parfaitement individualisé dans sa vie mystique. Bien commun. contemplation est purement personnelle. Elle est totalement individuelle. Elle est parfaitement personnelle. C'est du côté de la finalité. L'amitié est transcommunautaire. L'amitié personnelle.
Transcendance de la personne.